Bono, c'était un copain de l'école primaire qui m'enseignait deux choses. L'existence de la différence sociale et la rébellion au pouvoir. Bono était pauvre, c'est évident. Tous les samedis, on était obligé de se mettre en uniforme et à participer aux cérémonies fascistes, parce que tout enfant était en balila, chemise noire, foulard bleu. Et parfois, pendant ces exercices, il y avait la cérémonie du sermon. Je jure d'obéir aux ordres du Duce, c'est-à-dire de Mussolini, un sermon solennel avec lequel on s'engageait à donner sa vie pour le régime et pour la patrie. Et à la fin du sermon qui était prononcé par le chef, là, tout le monde devait lever la main dans le salut romain et dire « Lo giuro », je le jure. Et Bruno, qui était à côté de moi, en lieu de « Lo giuro », a dit « Arturo ». Arturo, que dans le bruit général, personne s'apercevait qu'il n'avait pas dit « Lo giuro ». Moi seulement, je l'ai entendu. Mais il se refusait de prononcer le serment. Probablement, il appartenait à une famille antifasciste de ces ouvriers un peu socialistes ou anarchistes. Mais en tout cas, il m'a donné l'image de la rébellion, du refus. Le premier refus que j'ai entendu dans ma vie.
Reconnaître le fascisme, Umberto Eco, partie 2 sur 2. En dépit de cet imbroglio, je crois possible d'établir une liste de caractéristiques typiques de ce que je voudrais appeler l'urfascisme, c'est-à-dire le fascisme primitif et éternel. Impossible d'incorporer ces caractéristiques dans un système. Beaucoup se contredisent réciproquement et sont typiques d'autres formes de despotisme ou de fanatisme. Mais il suffit qu'une seule d'entre elles soit présente pour faire coaguler une nébuleuse fasciste. 1. La première caractéristique d'un urfascisme, c'est le culte de la tradition. Le traditionnalisme est plus ancien que le fascisme. Il ne fut pas seulement typique de la pensée contre-révolutionnaire catholique après la Révolution française. Il est né vers la fin de l'âge hellénistique en réaction au rationalisme grec classique. Dans le bassin méditerranéen, les peuples de religions différentes, toutes acceptées avec indulgence par le panthéon romain, se prirent à rêver d'une révélation reçue à l'aube de l'histoire humaine. Cette révélation resta longtemps cachée sous le voile de langues désormais oubliées, confiées aux hiéroglyphes égyptiens, aux runes celtes, aux textes sacrés, encore inconnus, des religions asiatiques. Cette nouvelle culture devait être syncrétiste. Le syncrétisme n'est pas seulement, comme l'indiquent les dictionnaires, la combinaison de diverses formes de croyances ou de pratiques. Une telle combinaison doit tolérer les contradictions. Tous les messages originaux contiennent un germe de sagesse, et lorsqu'ils semblent dire des choses différentes ou incompatibles, c'est uniquement parce que chacun fait illusion, de façon allégorique, à quelques vérités primitives. Conséquence, il ne peut y avoir d'avancée du savoir. La vérité a déjà été énoncée une fois pour toutes et l'on ne peut que continuer à interpréter son obscur message. Il suffit de regarder le syllabus de chaque mouvement fasciste pour y trouver les principaux penseurs traditionalistes. La gnose nazie se nourrissait d'éléments traditionalistes, syncrétistes, occultes. Julius Evola, la source théorétique essentielle de la nouvelle droite italienne, mélangeait le Graal avec les protocoles des sages de Sion, l'alchimie avec le Saint-Empire romain. Le fait même que, pour montrer son ouverture d'esprit, une partie de la droite italienne ait récemment élargi son syllabus en réunissant Demestre, Guénon et Gramsci, est une preuve lumineuse de syncrétisme. Si vous regardez par curiosité les rayons des librairies américaines portant l'indication « New Age », vous y trouverez même Saint-Augustin, lequel, pour autant que je sache, n'était pas fasciste. Mais le fait même de réunir Saint-Augustin et Stone Age, cela est un symptôme du fascisme. 2. Le traditionnalisme implique le refus du modernisme. Les fascistes, comme les nazis, adoraient la technologie, tandis qu'en général, les penseurs traditionalistes la réfutent, la tenant pour la négation des valeurs spirituelles traditionnelles. Toutefois, bien que le nazisme ait été fier de ses succès industriels, ses louanges de la modernité n'étaient que l'aspect superficiel d'une idéologie fondée sur le sang et la terre. Blut und Boden. Le refus du monde moderne était camouflé sous la condamnation du mode de vie capitaliste. Mais il recouvrait surtout le rejet de l'esprit de 1789 et du 1776, bien sûr. Le siècle des Lumières, l'âge de la raison, conçu comme le début de la dépravation moderne. En ce sens, l'urfascisme peut être défini comme irrationalisme. 3. L'irrationalisme dépend aussi du culte de l'action pour l'action. L'action est belle en soi, on doit donc la mettre en œuvre avant, et sans la moindre réflexion. Penser est une forme d'émasculation. Ainsi, la culture est suspecte, puisqu'on l'identifie à une attitude critique. De la déclaration attribuée à Goebbels, « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver », à l'emploi courant d'expressions telles que « sale intellectuel »,« crâne d'œuf », »,« snob radicaux »,« les universités sont un repère de communistes », la suspicion envers le monde intellectuel a toujours été un symptôme d'urfascisme. L'essentiel de l'engagement des intellectuels fascistes officiels consistait à accuser la culture moderne et l'intelligentsia d'avoir abandonné les valeurs traditionnelles. 4. Aucune forme de syncrétisme ne peut accepter la critique. L'esprit critique établit des distinctions, et distinguer est un signe de modernité. Dans la culture moderne, la communauté scientifique entend le désaccord comme un instrument de progrès des connaissances. Pour l'urfascisme, le désaccord est trahison. 5. Le désaccord est en outre signe de diversité. L'urfascisme croit et cherche le consensus en exploitant et exacerbant la naturelle peur de la différence. Le premier appel d'un mouvement fasciste ou prématurément fasciste est lancé contre les intrus. L'urfascisme est donc raciste par définition. 6. L'urfascisme naît de la frustration individuelle ou sociale. Aussi, l'une des caractéristiques typiques des fascismes historiques est-elle l'appel aux classes moyennes frustrées, défavorisées par une crise économique ou une humiliation politique, épouvantées par la pression de groupes sociaux inférieurs. À notre époque, où les anciens prolétaires sont en passe de devenir la petite bourgeoisie, et où les lumpen s'auto-excluent de la scène politique, le fascisme puisera son auditoire dans cette nouvelle majorité. 7. Quant à ceux qui n'ont aucune identité sociale, l'urfascisme leur dit qu'ils jouissent d'un unique privilège, le plus commun de tous, être nés dans le même pays. La source du nationalisme est là. De plus, les seuls à pouvoir fournir une identité à la nation, ce sont les ennemis. C'est pourquoi, à la racine de la psychologie urfasciste, on trouve l'obsession du complot, si possible, international. Les disciples doivent se sentir assiégés. Le moyen le plus simple de faire émerger un complot consiste en appeler à la xénophobie. Toutefois, le complot doit également venir de l'intérieur. Aussi, les Juifs sont-ils en général la meilleure des cibles, puisqu'ils présentent l'avantage d'être à la fois dedans et dehors. Aux États-Unis, le livre de Pat Robertson, The New World Order, constitue le dernier exemple en date d'obsession du complot. 8. Les disciples doivent se sentir humiliés par la richesse ostentatoire et la force de l'ennemi. Quand j'étais enfant, on m'apprenait que les Anglais étaient le peuple aux cinq repas. Ils mangeaient plus souvent que les Italiens, pauvres mais sobres. Les Juifs sont riches et ils s'entraident grâce à un réseau secret d'assistance mutuelle. Cependant, les disciples doivent être convaincus de pouvoir vaincre leurs ennemis. Ainsi, par un continuel déplacement de registre théorique, les ennemis sont à la fois trop forts et trop faibles. Les fascismes sont condamnés à perdre leur guerre parce qu'ils sont dans l'incapacité constitutionnelle d'évaluer objectivement la force de l'ennemi. Pour l'urfascisme, il n'y a pas de lutte pour la vie, mais plutôt une vie pour la lutte. Le pacifisme est alors une collusion avec l'ennemi. Le pacifisme est mauvais car la vie est une guerre permanente. Toutefois, cela comporte un complexe d'Armageddon. Puisque les ennemis doivent et peuvent être défaits, il devra y avoir une bataille finale à la suite de laquelle le mouvement prendra le contrôle du monde. Cette solution finale implique qu'il s'ensuivra une ère de paix, un âge d'or, venant contredire le principe de guerre permanente. Aucun leader fasciste n'a jamais réussi à résoudre cette contradiction. 10. L'élitisme est un aspect type de l'idéologie réactionnaire, en tant que fondamentalement aristocratique. Au cours de l'histoire, tous les élitismes aristocratiques et militaristes ont impliqué le mépris pour les faibles. L'urfascisme ne peut éviter de prêcher l'élitisme populaire. Tout citoyen appartient au peuple le meilleur du monde. Les membres du parti sont les citoyens les meilleurs. Tout citoyen peut ou devrait devenir membre du parti. Cependant, il n'est point de patricien sans plébéien. Le leader qui sait que son pouvoir n'a pas été obtenu par délégation mais conquis par la force, sait aussi que sa force est fondée sur la faiblesse des masses, tellement faibles qu'elles méritent et ont besoin d'un dominateur. Comme le groupe est organisé hiérarchiquement, selon un modèle militaire, chaque leader subordonné méprise ses subalternes, lesquels méprisent à leur tour leurs inférieurs. Tout cela renforce le sentiment d'un élitisme de masse. 11. Dans cette perspective, chacun est éduqué pour devenir un héros. Si dans toute mythologie, le héros est un être exceptionnel, dans l'idéologie urfasciste, le héros est la norme. Un culte de l'héroïsme étroitement lié au culte de la mort. Ce n'est pas un hasard si la devise des phalangistes était « Viva la muerte ». On dit aux gens ordinaires que la mort est désagréable, mais qu'il faut l'affronter avec dignité. On dit aux croyants que c'est une façon douloureuse d'atteindre un bonheur surnaturel. Le héros urfasciste, lui, aspire à la mort, annoncée comme la plus belle récompense d'une vie héroïque. Le héros urfasciste est impatient de mourir. Entre nous, soit dit, dans son impatience, il lui arrive plus souvent de faire mourir les autres. 12. Puisque la guerre permanente et l'héroïsme sont des enjeux difficiles à jouer, l'urfasciste transfère sa volonté de puissance sur des questions sexuelles. Là est l'origine du machisme, impliquant le mépris pour les femmes et la condamnation intolérante de mœurs sexuelles non conformistes, de la chasteté à l'homosexualité. Puisque le sexe aussi est un enjeu difficile à jouer, le héros urfasciste joue avec les armes, véritable ersatz phallique. Ces jeux guerriers proviennent d'une invidia pénis permanente. 13. L'urfascisme se fonde sur un populisme qualitatif. Dans une démocratie, les citoyens jouissent de droits individuels. Mais l'ensemble des citoyens n'est doté d'un poids politique que du point de vue quantitatif. On suit les décisions de la majorité. Pour l'urfascisme, les individus en tant que tels n'ont pas de droits. Et le peuple est conçu comme une qualité, une entité monolithique exprimant la volonté commune. Puisqu'aucune quantité d'êtres humains ne peut posséder une volonté commune, le leader se veut leur interprète. Ayant perdu leur pouvoir de délégation, les citoyens n'agissent pas. Ils sont seulement appelés, pars pro toto, à jouer le rôle du peuple. Ainsi, le peuple n'est plus qu'une fiction théâtrale. Pour avoir un bon exemple de populisme qualitatif, il n'est plus besoin de Piazza Venezia ou du stade de Nuremberg. Notre avenir voit se profiler un populisme qualitatif télé ou Internet, où la réponse émotive d'un groupe sélectionné de citoyens peut être présentée et acceptée comme la voix du peuple. En raison de son populisme qualitatif, l'urfascisme doit s'opposer au gouvernement parlementaire putride. L'une des premières phrases que prononça Mussolini au Parlement italien fut « J'aurais pu transformer cette salle sourde et grise en un bivouac pour mes manipules. » Effectivement, il trouva aussitôt un meilleur abri pour ses manipules. Mais peu après, il liquida le Parlement. Chaque fois qu'un politicien émet des doutes quant à la légitimité du Parlement, parce qu'il ne représente plus la voix du peuple, on flaire l'odeur de l'urfascisme. 14. L'urfascisme parle la novlangue. La novlangue fut inventée par Orwell dans 1984 comme langue officielle de l'INSOC, le socialisme anglais. Mais des éléments d'urfascisme sont communs à diverses formes de dictature. Tous les textes scolaires nazis ou fascistes se fondait sur un lexique pauvre et une syntaxe élémentaire, afin de limiter les instruments de raisonnement complexes et critiques. Cela dit, nous devons être prêts à identifier d'autres formes de novlangue, même lorsqu'elles prennent l'aspect innocent d'un populaire talk show. Maintenant que j'ai indiqué les possibles archétypes de l'urfascisme, permettez-moi de conclure. Le matin du 27 juillet 1943, j'appris que la radio avait annoncé la chute du fascisme et l'arrestation de Mussolini. Ma mère m'envoya acheter le journal. J'allai au kiosque le plus proche. Là, je vis que des journaux. Il y en avait beaucoup, mais qu'ils avaient tous des noms différents. En outre, après un bref coup d'œil au titre, je m'aperçus que chacun disait des choses différentes. J'en achetai un au hasard et je lus un message publié en première page, signé par 5 ou 6 partis politiques, la démocratie chrétienne, le parti communiste, le parti socialiste, le parti d'action, le parti libéral. Jusqu'alors, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul parti par pays et qu'en Italie, c'était le parti national fasciste. Je découvrais que dans mon pays, il pouvait y avoir différents partis en même temps. Plus encore, comme j'étais un petit garçon éveillé, je me dis que tant de partis n'avaient pu naître du jour au lendemain. Je compris qu'ils existaient déjà, sous forme d'organisations clandestines. Le message célébrait la fin de la dictature et le retour de la liberté. Liberté de parole, de presse, d'association politique. Ces mots, liberté, dictature, mon Dieu, je les lisais pour la première fois de ma vie. Grâce à ces nouveaux mots, je renaissais en tant qu'homme libre occidental. Nous devons veiller à ce que le sens de ces mots ne soit pas oublié de nouveau. L'urfascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire « Je veux rouvrir Auschwitz, je veux que les chemises noires reviennent parader dans les rues italiennes ». Hélas, la vie n'est pas aussi simple. L'urfascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ses nouvelles formes, chaque jour, dans chaque partie du monde. je laisse une nouvelle fois la parole à Roosevelt. J'ose dire que si la démocratie américaine cessait de progresser comme une force vive, cherchant jour et nuit par des moyens pacifiques à améliorer la condition de nos citoyens, la force du fascisme s'accroîtra dans notre pays. 4 novembre 1938. Liberté et libération sont un devoir qui ne finit jamais. Telle doit être notre devise. N'oubliez pas. Permettez-moi de terminer par une poésie de Franco Fortini. Sur le parapet du pont, les têtes des pendus, dans l'eau de la source, la bave des pendus. Sur le pavé du marché, les ongles des fusillés, sur l'herbe séchée du pré, les dents des fusillés. Mordre l'air, mordre les pierres, notre chair n'est plus celle d'homme. Mordre l'air, mordre les pierres, notre cœur n'est plus celui d'homme. Mais nous avons lu dans les yeux des morts, et sur terre la liberté nous la ferons, mais ils l'ont serré les poings des morts, la justice que nous ferons.
Primavera, dove sorge il sol della felicità, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol della felicità. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Fischia il vento, infuria la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'Appennino, a conquistare